François Bousquet, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef d'Éléments, la revue de la Nouvelle Droite. Vous avez fondé la Nouvelle Librairie, rue Médicis à Paris, à l'emplacement de la librairie de l'Action française, puis du faisceau de Georges Valois. Vous êtes l'auteur, entre autres, livres de La Droite buissonnière et de Courage, manuel de guérilla culturelle, édité à la Nouvelle Librairie, car c'est aussi une maison d'édition. Tout cela pour dire que les idées de Giorgia Meloni, qui vient de remporter les élections législatives en Italie, vous ne les partagez pas forcément toutes, mais vous y baignez toute la journée.
On peut le dire, puisqu'en effet, un des gérants de cette librairie, c'est Georges Valois, une figure à la croisée de la droite et des droites radicales et des gauches radicales.
À l'époque,
il y a un siècle, et qui avait fondé le faisceau, une aventure éphémère du fascisme en France. Mais lui-même est mort dans les camps en 1944, sauf erreur de ma part, Valois. Oui, on a voulu reprendre pied au quartier latin, mais avec les codes français, et spécifiquement français, qui ne sont absolument pas ceux de l'Italie, comme disait Pascal des Pyrénées, on peut le dire des Alpes, vérité en deçà des Alpes, erreur au-delà. C'est un autre monde. De l'Italie.
Néanmoins, vous connaissez tout ça par cœur. Alors, de votre point de vue, Giorgia Meloni est-elle fasciste ou post-fasciste ou néo-fasciste, comme on a tendance à le dire ici, France ?
Oui. En Italie, la gauche le dit également. Mais c'est un cas tout à fait différent. Elle a été fasciste, oui, puisqu'elle a adhéré au MSI. Le MSI, c'est un parti néo-fasciste fondé par Almirante après la guerre. Mais elle l'a rejoint à 15 ans, à un moment où ce parti-là allait rejoindre la coalition de Berlusconi. Donc, puis elle avait 15, 16, 17 ans. De fait, elle n'est même plus post-fasciste. Son logiciel est tout à fait ailleurs, mais on va en parler. Il est plutôt populiste et surtout conservateur. Je crois que si on insiste autant à la renvoyer à un fasciste originel, qui à mon sens quasi gériatrique, je trouve que le geste des antifascistes est de prêter beaucoup au fascisme, une puissance résurrectionnelle qu'il n'a pas. Il est mort il y a 70 ans, il y a 80 ans, il ne va pas revenir du monde des morts, on ne va pas lui dire Lazare, Mussolini, lève-toi et redresse-toi, il ne va pas se redresser. Il faut qu'ils arrêtent de faire les poubelles de l'histoire, je suis un peu dur, mais en tout cas les brocantes de l'histoire et les vide-greniers pour amener une dent creuse de Mussolini ou un poil de nez de Hitler. Je pense que c'est ridicule, que ça ne prend plus du tout sur les peuples, en tout cas en Italie. Il y a même aujourd'hui un réflexe qui joue, je crois, en Italie et qui commence à arriver en France, c'est le retournement des stigmates, chers aux politologues ou aux politistes, c'est-à-dire des modèles d'identification négative. Puisque vous dites que je suis ce que je suis, c'est-à-dire stigmatisé, eh bien je vais l'être et je vais donc accorder mon vote à Giorgia Meloni. Je crois pas du tout qu'elle soit fasciste. Moi, je pense que c'est un ovni. Si vous me permettez le jeu de mots de Giorgia Meloni, c'est Mélovni. Elle est vraiment Mélovni. Vous l'avez dit, première femme à diriger sûrement l'Italie, première femme à diriger un groupe au Parlement européen, sauf erreur de ma part, et c'est le groupe des conservateurs et réformistes, pas des populistes. Autre paradoxe de ce personnage, on ne sait pas trop où la situer. Elle a fait une campagne manifestement sur le ton populiste. Mais est-ce que le fond est populiste? Je ne le crois pas. Et est-ce qu'il y a un fond dans le populisme? J'en suis encore moins sûr. Qu'est-ce que le populisme? Toute la science politique se heurte à ce mystère qu'est le populisme. On n'arrive pas à le définir. On n'a pas de concept du populisme, alors qu'on a un concept du fascisme, du communisme, du libéralisme. Pas du populisme. C'est à se demander si ce n'est pas une coquille creuse, simplement un contenant, ce que j'ai tendance à penser, si je m'en tiens à la campagne de Meloni, qui a mobilisé tous les ressorts rhétoriques, du populisme.
On l'a oublié aujourd'hui car on voit Mussolini comme un César de carnaval, mais il était révolutionnaire au départ et très moderne. C'est le premier homme politique que l'on ait vu torse nu, par exemple. Ça peut sembler anecdotique, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Giorgia Meloni passe au contraire pour être anti-moderne.
Je ne suis pas complètement certain. Il y a un paradoxe, Meloni. On va voir ce qu'elle donnera à la présidence du Conseil. La campagne est hyper moderne. La campagne est totalement populiste. Vous savez ce qu'elle fait? Moi, je pense que c'est un populisme. On en parlera peut-être. Il y a un style national dans le populisme. Salvini, c'est un tifoso, supporter du Milan AC. Il s'est toujours mis en scène comme supporter. Elle, c'est un populisme en jupon. Ce que je dis va heurter Sandrine Rousseau. Mais elle n'aurait pas sa place en Italie. Et en Wonderbra, que fait Meloni le week-end de l'élection législative? Elle publie sur TikTok une vidéo avec des melons au niveau des seins, des melons parfaitement calibrés. Meloni, c'est melon au pluriel en italien. Donc elle envoie des codes qui sont inimaginables en France. Ce sont les codes de latéralité d'un pays qui a eu 30 ans de télé berlusconienne. Imaginons de ce côté-ci des Alpes une Marine Le Pen se présentant avec des melons. Alors certes, le nom s'y prête pas, ça n'est pas concevable. Donc il y a un fond conservateur, mais la rhétorique est post-moderne. On est au cœur du populisme. Qu'est-ce que c'est que le populisme? Comme diraient les politologues, c'est un processus de désintermédiation. C'est-à-dire que vous recourez aux codes de la société du spectacle, mais pour les détourner contre la société du spectacle. Ce qu'elle fait, vous passez au-dessus ou en dessous, ce qu'elle a fait très bien. Alors après, il y a le fond. Mais le fond, ça reste un mystère. On va voir ce que va donner sa présidence du Conseil, si jamais elle devait être choisi par le président.
J'entendais par anti-moderne le fait qu'elle s'est opposée plusieurs fois au LGBT, par exemple, qu'elle est hostile à l'avortement, même si elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de revenir sur la loi de 1978. Ouais. C'est en sens-là qu'on peut penser, a priori, de ce côté des Alpes, qu'elle est anti-moderne.
Ouais. Mais vous connaissez le mot de Chesterton sur les progressistes et les conservateurs. Bah, je le rappelle, hein. Chesterton disait que les progressistes, le propre des progressistes, l'affaire des progressistes, c'est de faire des erreurs, et l'affaire des conservateurs, c'est de ne pas les corriger. Moi, je pense qu'elle ne les corrigera pas. Si on l'a su depuis 2018, hein, il y a un processus de recentrage, hein, il y a un alignement idéologique. On observe le même en France avec Marine Le Pen, il n'est plus question de sortir de l'euro. Alors certes, la thématique est conservatrice, hein, j'aurais presque envie de dire même qu'elle est pétiniste. Hein. C'est pas travail, famille, patrie, mais c'est Dieu, famille, patrie.
Giorgia Meloni.
Simplement, il est évident que les Italiens ne savent pas ce que c'est que le phénomène maréchaliste ou pétiniste en France. Hein. Donc oui, il y a du familialisme, il y a une revendication de l'affirmation religieuse et chrétienne, avec un pape qui est un peu aux antipodes.
Il y a du natalisme position, aussi.
Du natalisme. Mais l'Italie, le pays démographiquement, je crois qu'avec le Japon, sauf de ma part, c'est là où la démographie est le plus faible. Hein. Donc il est normal que ça obsède en profondeur le pays, puis qui a été un pays qui a envoyé ses immigrés au bout du monde, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en France, partout en Europe. Donc aujourd'hui, il y a un effondrement de la natalité. Il est normal qu'elle mette le curseur là-dessus. Et peut-être, alors les candidats en France, peut-être au sein du RN, qui sont assez loin, qui sont plus proches de Salvini qu'ils ne pourraient l'être de Meloni, peut-être que c'est pour faire passer une pilule d'une politique plutôt libérale. Hein. Mais là encore, il y a un énorme mystère autour de cette personne.
Hein. On fait une pause, François Bousquet, et on se retrouve juste après. On va quand même essayer de percer un peu ce mystère.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec François Bousquet, le rédacteur en chef d'Éléments, la revue de la Nouvelle Droite. On parle de l'arrivée probable au pouvoir de Giorgia Meloni, puisque la coalition a emporté nettement les législatives. Elle a la majorité absolue au Parlement italien, donc a priori, elle est la prochaine oui. présidente du Conseil. Et l'Italie a toujours, pour moi, fait office de laboratoire politique, hein, du temps de Garibaldi, de D'Annunzio, de Mussolini, de Malaparte, comme au temps de Berlinguer et de l'eurocommunisme ou de Berlusconi qui annonce Donald Trump, ouais. De Beppe Grillo et du mouvement 5 étoiles qui annonce Zelensky. Ouais. À quoi ça tient ?
C'est un pays pionnier. C'est un pays indiscutablement pionnier. On pourrait remonter beaucoup plus en amont, fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Du reste, c'est le pays qui porte la Renaissance, donc le renouveau européen.
Qui invente le capitalisme.
Qui invente le capitalisme dans les villes, dans les cités-états italiennes, mais qui invente également la politique dans ces cités-états italiennes, qui a des penseurs politiques de premier plan dès le 15e siècle, hein, donc un siècle avant nous. En même temps, le peuple italien traverse une très très longue éclipse aussi politique, parce que l'unification est très tardive. Donc c'est un peu, on peut considérer que c'est un peuple dépolitisé pendant plusieurs siècles, avec un Vatican qui rayonne et qui empêche la constitution d'un État-nation moderne. Si on s'intéresse au phénomène de l'unification en Italie, il est quand même globalement porté, alors je parle comme un marxiste italien et comme Gramsci en particulier, il est porté par la bourgeoisie du Nord. Le peuple italien est assez peu associé à l'unification. C'est un mouvement romantique et également économique. Le pays qui a le plus produit de travaux, souvent géniaux, moi je le trouve vraiment géniaux, sur la sociologie des élites, hein, c'est l'Italie. Il y a un nombre de chefs-d'œuvre sur la sociologie des élites en Italie considérable. Hein. Une pensée libérale de premier plan. Donc toujours avec un peuple qui est en arrière-plan. Et pourtant, ce peuple, bah, vous l'avez rappelé, le fascisme sort du futurisme. Le fascisme sort aussi en partie, parce qu'il y a renoncé Mussolini, mais d'un socialisme, puisque c'est un lecteur de Marx au départ et de Georges Sorel.
C'est un socialiste révolutionnaire.
Voilà, alors après, il y a un recentrage, mais au départ, c'est ce qu'il est. Le pays qui fait l'expérience de l'effondrement, moi qui me fascine aujourd'hui en Europe, de la social-démocratie, en l'occurrence de la démocratie chrétienne, 1990, le tout début, c'est l'Italie. Et ça se joue 40 ans plus tard, 30 ans plus tard en Suède. Hein.
Mais la démocratie chrétienne, c'est la droite italienne.
C'est le centre droit. Mais c'est le centre droit, mais qui s'effondre. Hein, qui s'effondre à la suite des affaires de corruption, d'usure du pouvoir, de ses propres inerties. Vous avez rappelé le phénomène Berlusconi. Est-ce qu'il est transposable en France ? La greffe a échoué quand il a voulu reprendre la 5. Hein. Donc en particulier, les codes grotesques qu'il y a dans l'œuvre de Foucault. Et ses cours au Collège de France, un développement sur ce qu'il appelle la souveraineté grotesque. Hein. Et de fait, la souveraineté grotesque a été appliquée par Beppe Grillo. Et moi, je trouve qu'avec Beppe Grillo, on est au cœur du populisme. Pourquoi le populisme est d'abord un dégagisme, hein. C'est Donald Trump disant dans le jeu télévisé avant qu'il soit élu, The Apprentice, qui veut décrocher le job, vous êtes viré. C'est ce que dit le populiste, vous êtes viré. Et qu'est-ce qu'il a fait, Beppe Grillo ? Il a fait le va-fanculo dès le jour du va-franculisme, le jour du dégagisme. Là, on est vraiment au cœur. Est-ce que c'est transposable en France? Je ne le pense pas. Il y a de fait aujourd'hui une tentation dans les pays européens et les pays occidentaux, une tentation d'un basculement du pouvoir vers des formes grotesques, hein, vers des clowns. Hein. Il y a eu plusieurs livres qui ont paru sur le sujet. BP Criot n'a pas été au pouvoir, mais Zelensky, c'est ce qu'était Zelensky initialement. C'était un clown, hein, un clown prémonitoire qui a mis en scène dans une série télévisée son accession au pouvoir. Hein. Peut-être que c'est une tentation qui traverse les électorats européens. En tout cas, ça s'est arrêté en Italie pour... c'est pas arrivé en France, hein, et le mouvement 5 étoiles a un petit peu échoué puisqu'il a gagné les législatives les précédentes en 2018. Il a voulu faire une alliance à front renversé qui ressemble beaucoup à ce que nous faisons à Élément. C'est-à-dire une alliance des droites radicales et des gauches radicales, hein, la Ligue de Salvini et puis les 5 étoiles. Ça n'a débouché sur rien, sinon une usure du pouvoir. Hein, et alors que le parti qui était vierge électoralement, Fratelli d'Italia, eh bien, a raflé la mise aujourd'hui.
Ouais. Alors Giorgia Meloni, c'est quoi une catholique, vous l'avez dit, une nationaliste, une conservatrice, une réactionnaire, une libérale, ouais. Une illibérale ?
C'est impossible de répondre à cette question. Je pense qu'on rentre dans des produits politiques hybrides, hein, sûrement.
Elle veut arrêter l'immigration, mais en même temps, elle est atlantiste. Elle est pro-Europe, ouais. Pro-OTAN, elle est pro-américaine, elle est anti-russe.
Oui, elle est anti-russe, à la différence de Berlusconi, qui a été très proche de Poutine et de Medvedev. De même pour Salvini, assez proche des Russes. Donc peut-être que ça entraînera des frictions. Moi, j'ai en tête le mot de Guy Mollet. Vous savez, les communistes ne sont, sont pas à gauche, ils sont à l'Est. Bah, elle est à l'Ouest, hein, elle l'assume depuis toujours. Hein. Donc c'est une nouveauté au sein des droites radicales italiennes, hein, mais ce n'est pas une nouveauté au sein de l'Italie. L'Italie, rappelons-le, c'est un pays où il y a des bases de l'OTAN, où l'Amérique est omniprésente depuis le débarquement. Donc,
elle voudrait un régime plus présidentiel. Il faut savoir qu'en Italie, depuis la chute de Mussolini, on a tout fait pour qu'une seule personne ne puisse pas concentrer tous les pouvoirs. Et elle voudrait que le président soit élu au suffrage universel direct. Il faudrait pour ça d'ailleurs changer la constitution.
Réforme, ouais, ouais.
Au fond, ce dont elle rêve, c'est de la 5e République à la française, non ?
Oui, parce qu'il y a une telle instabilité constitutionnelle, politique en Italie, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'à peu près la moyenne depuis la fin de la guerre, c'est un régime par an en moyenne, hein, avec des phases où il y a un peu plus d'équilibre et de continuité. Mais depuis 2018, je crois qu'il y a 4 gouvernements en Italie.
Mais sa coalition tiendra-t-elle, puisque vous l'avez dit, c'est très, ça change tous les ans à peu près. Est-ce qu'elle est avec la Ligue du Nord de Matteo Salvini, Forza Italia de Berlusconi, sachant que l'Italie est terriblement endettée, 150% de son PNB, dépendante du plan de relance européen, dont elle attend encore 138 milliards d'euros, elle n'a pas franchement les coups des libres.
Non, elle est liée. De toute façon, l'Italie a le pistolet sur la tempe. Hein. Moi, je trouve que l'UE, enfin, Bruxelles, je parle là pour le coup comme un Italien, ce que je ne suis pas, c'est qu'il y a un chantage à la dette, hein, de toute évidence, dans le plan de relance européen et dit de résilience, hein, mis en place par Mario Draghi. Elle devra l'appliquer. La feuille de route est déjà fixée. Je pense qu'elle va décevoir beaucoup de gens sur ce plan-là. Mais simplement, ce petit mot, moi, quand je dis que c'est un produit hybride, c'est que sur l'immigration, elle est nationale protectionniste. Elle ressemble à Marine Le Pen, elle est très proche. Hein. Mais sur quantité de sujets, il semblerait qu'elle soit plutôt libérale conservatrice. Hein. Encore qu'elle a fait une campagne dans le sud de l'Italie, enfin dans l'Italie du centre et l'Italie du sud, une campagne pour essayer de contrecarrer le mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement populiste, hein, beaucoup plus social, hein, avec une dimension beaucoup plus sociale affirmée. Elle s'est adressée aux petites retraites, aux petites pensions, aux travailleurs indépendants. Donc on va voir. Ça reste encore pour moi du mystère.
Merci François Bousquet. Je vais citer... l'un de vos derniers livres, hein, Courage, manuel de guérilla culturelle. On peut dire qu'elle l'a gagné, guérilla culturelle.
Ouais.
C'est paru à la Nouvelle Librairie, la maison d'édition de la Nouvelle Droite, que vous dirigez. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Irène Théry.